Ah, ce matin, on poursuit notre série Vivre l'Église autrement. Le Seigneur nous montre toutes sortes de manières différentes de vivre l'Église. Juste un petit récapitulatif, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? On a parlé au début de la série de réconfort et d'être là les uns pour les autres, de rester connectés ensemble. Et j'espère que vous n'êtes pas en train de vous négliger de ce côté-là parce que le temps s'étire. Il y a peut-être des appels à refaire, il y a des contacts à refaire, peut-être qu'il y a des gens de l'Église que vous n'avez pas eu de nouvelles depuis un petit bout de temps. C'est vraiment important de rester connectés ensemble. Ensuite de ça, on a parlé de l'importance de se servir les uns les autres, d'être des serviteurs, parce que l'amour dans le Nouveau Testament prend la forme du service particulièrement. Et il y a plein de manières où on peut se servir les uns les autres, prendre soin les uns des autres. Ensuite de ça, on a vu que Christ était notre rocher solide. Notre foi est ancrée sur Jésus-Christ. On a parlé ensemble que dans un contexte où on peut craindre, on peut avoir de la peur, comme chrétien, parce que j'ai cru en Jésus-Christ, je sais que je suis destiné au salut. Quoi qu'il advienne, je ne suis pas destiné à la colère divine, mais au salut. Et donc, je ne vais pas interpréter ce qui est en train de se passer comme une colère de Dieu envers moi, mais je vais placer ma foi en lui et je vais espérer en lui. Et la semaine dernière, on a vu ensemble que par le coronavirus, Dieu appelle les hommes à la repentance et il invite les chrétiens à se réaligner vraiment sur la personne de Jésus-Christ comme fondement, comme source de notre joie essentielle, fondamentale. Enfin, ce matin, on va parler ensemble de courage et de bonnes œuvres. Alors, on est en train de méditer, de lire ensemble un petit livre de John Piper. On l'a mentionné dans les annonces, mais je vous encourage à prendre le temps de le savourer, de le déguster. Il y en a qui lisent très vite. Hein? Moi, je suis un lecteur super lent. Mais il y en a qui, si vous êtes comme des gloutons de la lecture, je vous admire en fait parce que vous êtes très efficace. Mais il peut avoir un effet pervers à ça. C'est que peut-être que vous n'avez pas appris à méditer par contre. Et donc, les chapitres sont très courts. Je vous invite à prendre le temps. Il nous reste encore un dimanche dans ce livre-là. Prenez le temps d'aller relire et relire. Et si ça fait longtemps que vous l'avez complété, prenez le temps d'aller relire le chapitre 10, lire la fin, le chapitre 11 et la prière de la fin, simplement pour pouvoir le méditer. Ce matin, on va se concentrer sur Matthieu 5. Et on a déjà enseigné à plusieurs reprises à l'Église ici sur Matthieu 5, mais je veux nous remettre en contexte quand même avant la lecture des Écritures. Matthieu 5 débute avec quelque chose de vraiment particulier. C'est ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Dans le sermon sur la montagne, il y a vraiment une allusion, une comparaison, une image où Jésus est présenté comme le nouveau Moïse. Moïse est allé sur le mont Sinaï pour recevoir la loi de Dieu et Jésus est ce nouveau Moïse que Moïse lui-même avait annoncé des centaines et des centaines d'années auparavant. Et donc, Jésus, en allant sur la montagne, va nous donner les lois de son royaume, qui sont en fait parfaitement en complément avec tout l'Ancien Testament, mais qui nous donnent une relecture de certaines choses. Et donc, on voit ce sermon sur la montagne comme les règles pour vivre dans le royaume de Jésus-Christ, dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux. Jésus-Christ est notre roi. Comment est-ce qu'on vit lorsqu'on est dans son royaume? Et c'est vraiment le contexte qui nous est donné ici. On va aller dans la prière ensemble, puis on va explorer ce matin qu'est-ce que ça veut dire vivre à la fois dans le royaume des hommes, dans un temps de pandémie, mais en même temps appartenir au royaume de Dieu, puis porter les valeurs de notre roi dans cette période très, très extraordinaire qu'on est en train de vivre. Allons ensemble dans la prière. Seigneur Jésus, on vient devant toi ce matin, premièrement pour t'adorer. Nous avons reconnu que tu es notre Seigneur, que tu es notre roi, que tu es Dieu le Fils envoyé sur terre pour venir nous faire connaître le royaume de Dieu. Tu es venu sur terre pour nous inviter à entrer dans le royaume de Dieu, dans ton royaume, ô notre roi. Tu es venu sur terre pour mourir sur la croix, ressusciter d'entre les morts, payant le prix de nos péchés si nous croyons en toi, Seigneur. Et nous reconnaissons que tu es notre Seigneur. Seigneur, on veut te demander de nous enseigner à travers ce passage biblique, à travers cet exposé. Apprends-nous comment est-ce que tu nous appelles à agir, à vivre, à fonctionner, alors que nous vivons sur la terre parmi les hommes, dans un royaume terrestre humain, mais en même temps, nous appartenons premièrement au royaume des cieux. Premièrement au royaume de Dieu. Montre-nous, Seigneur, comment avoir ce discernement de vivre autrement afin de briller pour toi. Je te demande de parler à nos cœurs. Seigneur, on vit une époque où il y a beaucoup de peur qui habite toutes les sociétés sur la terre. Beaucoup de craintes qui sont là, beaucoup d'inconnus, Seigneur. Et tu nous appelles, nous, au courage. Alors, je te demande de venir nous mettre au défi, Seigneur, de venir challenger nos cœurs et de venir produire par la puissance de ton Esprit Saint en nous le courage de porter ce fruit pour toi. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen.
Alors, Matthieu 5, versets 1 à 16, dans la nouvelle édition de Genève. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.
Le mot « heureux » qu'on trouve dans Matthieu 5, signifie plus littéralement là, béni, qui a la faveur de Dieu. Tu es heureux parce que tu es béni de Dieu, parce que tu as la faveur de Dieu. Tu as le shalom, la paix de Dieu qui est avec toi. Et donc, ce que Jésus est en train de dire, c'est que celui qui a la faveur de Dieu, par exemple, c'est celui qui sait qu'il est pauvre spirituellement et qui se tourne vers Dieu. Mais celui qui pense être riche spirituellement pense qu'il n'a pas besoin de Dieu, il n'y a rien à entendre. Heureux, bénis les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Ça veut dire simplement que si tu réalises ton état de pauvreté spirituelle, tu vas être ouvert, tu vas te tourner vers Dieu, tu vas entendre le message et tu vas chercher sa face. Et peut-être que c'est ta situation. Peut-être que tu as commencé à suivre des enseignements bibliques à travers cette pandémie. Tu t'es connecté sur les réseaux sociaux, il y a des messages de l'Évangile, il y a des prédications, les églises sont sur le web par nécessité, hein? Pas parce qu'on veut occuper tout le web, mais parce qu'on veut servir nos assemblées. Quelqu'un t'a mis en contact, t'as attrapé ça, t'es en train de suivre avec nous. Peut-être que c'est le cas. Et peut-être que tu commences à entendre la voix de Christ qui te parle au-delà des messages dans ton cœur, parce que c'est ce qu'on croit. Si Dieu existe, Dieu peut nous parler aussi intérieurement. Et donc, l'Esprit de Dieu, peut-être, est en train d'attirer ton attention sur la personne de Christ. Pour les chrétiens, Jésus-Christ, c'est notre roi. On est appelé à le suivre, on est appelé à l'imiter. Et Jésus dit au verset 16, il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Comme je l'ai dit, on s'inspire fortement depuis quelques semaines du petit livre de John Piper et littéralement, je résumerai l'exposé avec le résumé qu'il nous donne au début de son chapitre 10. Voici comment je résume ça pour ce matin. par le coronavirus, Dieu appelle son peuple à surmonter l'apitoiement sur soi et la peur, afin d'accomplir avec joie et courage les bonnes œuvres d'amour qui glorifient Dieu. Et donc, ma prière ce matin, alors que je me préparais pour cet exposé, alors que je communique ce que Dieu a mis sur mon cœur à partir de sa parole, à partir de mes réflexions, à partir de ce chapitre de John Piper, ma prière ce matin, c'est que Dieu vous inspire du courage, que Dieu vous inspire de la foi pour oser faire de bonnes œuvres dans le nom de Jésus-Christ. Oser faire de bonnes œuvres qui vont peut-être demander du courage. On arrive à un moment dans cette aventure-là ou cette mésaventure-là de la pandémie où il va falloir faire preuve de courage. Et de plus en plus, je pense que c'est ce qu'on va entendre dans les prochaines semaines, les prochains mois par nos gouvernements, c'est qu'il va falloir faire preuve de courage. Bien, les chrétiens, on est appelés en tout temps à faire preuve de courage et à faire de bonnes œuvres pour la gloire de Dieu. Vous êtes le sel de la terre. C'est le premier point ce matin, vous êtes le sel de la terre. Il dit au verset 13, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? La saveur de l'Évangile. Je méditais sur le passage cette semaine, puis je me disais, c'est quand même drôle que Jésus se serve de cette image-là parce que le sel est là pour prendre un mec qui est fade, peut-être, puis relever son goût, adoucir un peu, faire sortir les parfums, tout ça. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Parfois, les chrétiens, on se fait dire qu'en fait, notre vie n'a pas tellement de saveur. Notre vie semble fade. Il y a des parents chrétiens qui se font dire par leurs enfants lorsqu'ils vieillissent puis qu'ils en viennent à devoir faire des choix pour eux-mêmes. Bien, je ne sais pas, ça a de l'air plate, la vie chrétienne. Ça a de l'air fade, ça a de l'air sans saveur. Donc, je trouvais ça assez ironique que Jésus nous dise, oui, mais il y a une saveur qui est unique à l'Évangile et vous êtes le sel de la terre. Personnellement, je ne trouve pas que la vie chrétienne est plate du tout. Je ne trouve pas que c'est fade. Je ne trouve pas que c'est plate, par exemple, de suivre Jésus. Je ne trouve pas que la vie de Jésus est plate. Je ne trouve pas que la vie de l'apôtre Paul est plate. Je ne trouve pas que c'est plate d'aimer mon épouse depuis 27 ans puis de me battre à tous les jours pour préserver notre amour, pour garder notre amour. Je ne trouve pas ça banal du tout. Je ne trouve pas ça fade du tout. Je ne trouve pas ça plate d'explorer les motifs de mon cœur à la lumière de la parole, puis voir est-ce que je suis honnête avec Dieu, est-ce que je suis honnête avec moi-même, est-ce que je suis honnête avec les gens autour de moi. Mais peut-être que pour certains, c'est plate de faire des choses comme ça. Je ne trouve pas ça plate d'adorer Dieu, de contempler sa grandeur, de voir sa majesté, sa beauté. Je ne trouve pas ça plate de prendre soin de gens qui souffrent, d'aider des gens qui manquent de nourriture, d'aider, d'encourager des gens qui ont perdu le goût de vivre, par exemple. Je ne trouve pas ça plate du tout. Mais la vie chrétienne peut sembler plate à certaines personnes. Puis l'image qui me venait à l'esprit lorsque j'étais en train de méditer sur ça, c'était, je me disais, dans le fond, l'Évangile, c'est peut-être juste que c'est une saveur un peu trop exotique pour certaines personnes. Vous savez, lorsqu'on découvre des saveurs exotiques, ça peut prendre un peu de temps pour les découvrir, pour s'y faire. Je me souviens les premières fois que j'ai bu du café. Mais vraiment, tu sais, que je me suis mis à prendre du café. Je commençais le cégep. Faut que je vous mette en contexte un petit peu culturellement. Pour les jeunes aujourd'hui, le cégep, c'est ces endroits qui étaient des édifices où on se rendait, avant le COVID-19, on se rendait là pour étudier. Tu sais, c'est un temps complètement révolu. Aujourd'hui, on fait ça devant les écrans. Mais je vous taquine, mais moi, j'ai découvert le café quand j'allais au cégep. Fait que j'ai commencé à aller au cégep, puis je me suis dit, OK, cégep, t'es sérieux, ça te prend ton café. Fait que je me rappelle, j'étudiais au Vieux-Montréal. C'était comme, là, on s'en va philosopher, on s'en va réfléchir ensemble. Je prenais le métro, j'achetais mon journal Le Devoir. C'était comme, j'étais un vrai de vrai, tu sais. Puis là, j'allais à la cafétéria prendre un café vraiment exécrable, puis je m'installais, puis j'ouvrais mon journal, puis je commençais à lire mon devoir en goûtant mon café. Puis c'était tellement, tellement mauvais, mais je m'appliquais religieusement à boire mon café au cégep. Puis, ben, à force de faire semblant que j'aimais ça, je me suis mis à aimer ça. Puis, je veux dire, aujourd'hui, je me lève le matin à 5 heures du matin. La première chose que je fais, je me rends jusqu'à ma cafetière à espresso. J'allume ma cafetière, puis je compte les secondes jusqu'à temps que je puisse verser mon premier espresso de la journée parce que j'ai appris à aimer ça. Je trouve ça délicieux maintenant. Mon palais s'est fait à ça. Mais au début, c'était comme, mais c'est bien fort cette affaire-là, ça goûte bien mauvais. Ça ne ressemble pas à quelque chose de sucré. Ou encore, je me souviens les premières fois que j'ai commencé à manger du fromage bleu. Tu sais, avec de la moisissure, tu sais, avec de la moisissure dessus. Puis là, j'ai appris à aimer ça, tu sais. Puis au fur et à mesure que j'ai appris à aimer ça, là, ça a commencé à se placer dans ma bouche. C'est devenu, waouh, délicieux. Puis là, je me suis fait une mission. Là, j'ai découvert que j'avais une mission dans la vie. Je devais aider mes amis à aimer le fromage bleu ou à aimer du boudin. Littéralement, là, je me suis dit, OK, moi, je vais aider les gens à aimer ça. Fait que là, je me souviens, il y a un ami, là, ça m'a pris des années. Je m'appliquais, je choisissais mes fromages, je choisissais les températures, je choisissais, OK, avec quoi est-ce qu'on va goûter à ça? Un petit morceau de pomme tombé à la poêle pour qu'il y ait un petit goût sucré, que ce ne soit pas trop agressif. Puis après quelques années, vous savez quoi? Je l'ai conquis. Il est tombé en amour avec le fromage bleu. Il a fallu que son palais s'y fasse, par exemple. Puis ça n'a pas toujours été des succès. Je me souviens d'une amie, j'avais vraiment mis le paquet pour qu'elle puisse aimer ça, puis ça a été une fois de trop, ça s'est arrêté là. Donc, je n'ai pas toujours des succès avec ça. Mais voyez un peu l'idée. L'Évangile a une saveur peut-être un peu trop exotique. C'est peut-être difficile à connaître, à apprécier au début, mais peut-être que notre mission comme chrétien, c'est de persévérer, de persister, d'oser leur faire découvrir une saveur exotique différente. Et quelle saveur a l'Évangile? J'ai un ami qui m'a appelé cette semaine, et je reste encore dans ma thématique des saveurs puis des cafés, puis j'ai un ami qui m'a appelé cette semaine, puis il dit « Ah Yannick, je viens de m'acheter la même cafetière que toi, là, puis je suis en train d'ajuster, puis je me fais un café, puis ça ne goûte pas comme lorsque tu me faisais du café. Qu'est-ce que ça goûtait? Tu veux-tu me rappeler? » Puis là, j'essayais de lui décrire, parce qu'il est en train de parfaire ça. Je ne vous dirai pas c'est qui, mais il s'appelle Danny. Alors, à la fin du COVID, il devrait être un expert en espresso. Vous prenez tous un rendez-vous chez lui, il va vous faire des centaines de cafés, vous allez voir, ça va être extraordinaire. Mais donc, il me dit, qu'est-ce que ça goûtait? Là? Puis là, on discutait ensemble. Peut-être que c'est ça que tu ne fais pas bien. Peut-être que tu devrais essayer ça. Puis il m'a réécrit, ah, déjà, ça s'améliore. Quelle est la saveur de l'Évangile? J'ai essayé de le résumer comme ceci parce que différents passages dans les Écritures vont nous amener à découvrir différentes saveurs de l'Évangile qui vont goûter différents. Puis je dirais qu'à la lumière de ce passage-là, un aspect de la saveur de l'Évangile, écoutez bien ceci, c'est la joie de faire le bien que Jésus veut que je fasse, surtout quand c'est incompris. Une des saveurs de l'Évangile, à la lumière de ce passage-là, c'est la joie de faire le bien que Jésus veut que je fasse, surtout quand c'est incompris. Il faut y prendre goût. Il faut vouloir ce petit piquant-là de dire, j'ai cette joie-là de faire le bien parce que Jésus veut que je le fasse, particulièrement quand c'est incompris. Et ça, c'est un des aspects de l'Évangile qu'on voit constamment à travers les évangiles, à travers les quatre évangiles, à travers la vie de Jésus, à travers la vie des disciples ensemble. Et l'Évangile ne va pas toujours être bien reçu. Il va avoir une saveur paradoxale. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 2, verset 14, voici ce qu'on lit. C'est l'apôtre Paul qui parle et il dit, « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance, saveur, parfum. Nous sommes en effet, pour Dieu, le parfum de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, ceux qui n'ont pas la foi en Jésus-Christ, à tout le moins pas encore. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et c'est vrai que l'Évangile va être un objet de scandale pour certains. Ça va les repousser. Ça ne veut pas dire qu'ils ne prendront pas goût si on persiste à cette saveur exotique-là, à avoir un bon témoignage dans leur vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne les gagnera pas avec le temps. Mais c'est vrai que c'est un parfum qui est paradoxal, qui est souvent en contraste avec la culture environnante. Et on a un défi de ce côté-là. Puis Jésus va nous dire que ce sel-là peut perdre sa saveur. Au verset 13, il dit, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? » Je ne sais pas, peut-être que tu as le sentiment que ta vie chrétienne a perdu de sa saveur. Pour toi, mais tu es conscient que peut-être que ta vie chrétienne semble plus monotone aux yeux des gens autour de toi qu'elle ne devrait l'être. Parce qu'à quelque part, il y a de ce premier amour-là que tu as perdu pour Christ. Et c'est notre prière, n'est-ce pas? qu'à travers cette épreuve mondiale qu'on est en train de traverser, des gens se tournent vers Christ et que l'Église de Christ revienne à ses premières passions pour lui. Et donc, si c'est le cas, si tu dis, oui, mais Yannick, j'ai conscience, c'est pas juste que la saveur de l'Évangile est exotique dans ma vie à moi, puis c'est difficile à comprendre, c'est que j'ai perdu de ma saveur, j'ai perdu de ma passion, j'ai perdu de mon premier amour. Bien, je t'invite à crier à Dieu. Je t'invite à supplier Dieu de te redonner de cette saveur-là. Je t'invite à retourner dans ta vie, à ton premier amour, à chercher dans ta vie s'il y a des endroits où tu tolères des choses qui t'engourdissent, qui t'endorment. Paul dit que le péché nous enveloppe facilement, puis on devient somnolent, somnambule. Peut-être que tu as besoin d'aller prendre de longues marches seul avec Dieu. Peut-être que tu as besoin de te retrouver dans la parole de Dieu, puis juste demander à Dieu, « Seigneur, ta parole ne me parle plus. Parle-moi par ta parole. » Puis de lire et de relire et de relire encore afin de retrouver cette saveur-là. Peut-être que c'est là que tu es. Et je prie certainement pour que Dieu redonne de la joie de la vie à ta vie chrétienne, de la passion. Un aspect de la saveur de l'Évangile, c'est la joie de faire le bien que Jésus veut que je fasse, surtout quand c'est incompris. Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'il le dit, Jésus dit lui-même, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » La joie de faire le bien que Jésus veut que je fasse, surtout quand c'est incompris, particulièrement quand c'est incompris. Et tantôt, je vais donner des exemples. On va regarder ensemble qu'est-ce que ça veut dire faire de bonnes œuvres dans un contexte où ça peut être incompris et le faire avec courage. Et je vais donner plein d'exemples. Mais en même temps, c'est à toi de le trouver. C'est à toi de voir et de dire qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire comme œuvre? Qu'est-ce que Jésus m'appelle à faire dans un contexte où ça va peut-être être incompris? Mais je vais continuer à le faire parce que j'ai un message à porter, j'ai une saveur à donner. Peut-être qu'il n'est pas très à la mode, peut-être que cette saveur-là n'est pas très à la mode, puis les gens disent « Ah oui, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'attire pas vraiment. » Mais persiste, continue à porter ça. Parce qu'avec le temps, ça se peut qu'il s'ouvre et ça se peut qu'il prenne goût à ça. C'est ce qu'on voit souvent dans la vie, dans le témoignage des gens qui deviennent chrétiens. Au départ, lorsqu'ils deviennent chrétiens, cette nouvelle saveur-là dans leur vie est très choquante pour leur entourage. Peut-être des fois, les nouveaux chrétiens sont maladroits aussi. Manque de charité, manque de douceur, manque de patience. On est pressé, puis on veut que tout le monde se mette à aimer du fromage bleu. Pas tout le monde qui va aimer du fromage bleu, je le sais. J'ai beau être un apôtre du fromage bleu, j'ai de la difficulté à communiquer ça. Mais c'est la même chose avec l'Évangile. Fait que sois patient, continue à porter ce témoignage-là qui va briller. Et souvent, on le voit dans la vie des chrétiens. Ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 2 décennies, 30 ans. Mais il y a quelque chose de cette saveur unique de l'Évangile qui finit par interpeller les gens, qui finit par les toucher et qui peut les conduire à glorifier ton Dieu qui est dans les cieux. Alors, ce n'est pas qu'on ne veut pas être compris. Ce n'est pas qu'on se complaît, qu'on aime l'idée d'être des incompris. Au contraire, on veut qu'ils découvrent Dieu, donc je veux que ce soit compréhensible. Mais en même temps, j'ai cette joie-là de persévérer à faire de bonnes œuvres, même quand je suis incompris, je vais persévérer à le faire. Vos bonnes œuvres font jaillir votre lumière. Versets 14 et 15, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. La lumière de l'Évangile que je porte en moi-même, la bonne nouvelle que Jésus est venu mourir sur la croix pour nos péchés, qu'il est notre sauveur, qu'on peut être réconcilié avec Dieu par la foi en Jésus-Christ, cet Évangile, cette bonne nouvelle-là, je la porte en moi. Et Jésus me dit ici que si je suis chrétien, si je suis un disciple de Jésus, je suis la lumière du monde. Pas simplement Christ est la lumière du monde, mais Christ en moi fait que je suis la lumière du monde. Et je pense que des fois, on a une humilité mal placée, les chrétiens. On se dit, je ne veux pas être prétentieux. On vit à une époque de, comme supposément de super tolérance. Maintenant, quand tu commences à parler de Jésus, tu te rends compte que c'est peut-être pas si tolérant que ça, mais de super tolérance. Puis là, tu te dis, mais qui suis-je pour prétendre avoir une lumière, être une lumière moi-même? Mais si tu es chrétien, si tu as le message de l'Évangile, c'est toi qui peux apporter ce message-là. Ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ n'ont pas cette lumière en eux et ne peuvent pas apporter cette lumière-là dans la culture. Et donc, il n'y a pas lieu d'avoir une espèce d'humilité mal placée qui fait que j'ose pas briller pour Christ. Comment est-ce qu'ils vont le découvrir si tu n'assumes pas le fait que tu portes en toi un message qui est unique, une foi qui est unique, qui est incomparable? Je sais que c'est contre-culturel, on est comme, non, il faut tolérer tout le monde, il faut accueillir tout le monde, il faut aimer tout le monde. Mais le message de l'Évangile, la foi en Jésus-Christ, est unique. Tu dois assumer ça, tu dois, excusez-moi l'anglicisme, mais on est ça entièrement, puis le porter avec fierté, même si ça choque des gens, même si ça offense des gens. Parce que ton mandat, le mien, celui de l'Église, partout à travers le monde, c'est de faire briller cette lumière-là, de ne pas la cacher, d'avoir le courage de faire briller cette lumière-là. Et Jésus nous dit ici que ça va souvent passer par de bonnes œuvres. Donc, j'annonce l'Évangile, les gens savent que je suis chrétien, mais ceci va être appuyé puissamment par un style de vie, par une éthique de vie, par une manière d'agir, par de bonnes œuvres. Et remarquez dans le passage, ces bonnes œuvres-là ne sont pas premièrement envers l'Église, envers les chrétiens, c'est vraiment ouvert à tous. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc ce sont tous les hommes. Dans tout le reste du Nouveau Testament, c'est l'apôtre Pierre qui a repris cette idée-là de Jésus le plus clairement. En fait, on dirait qu'il est en train de citer Jésus, le paraphraser, le mettre dans ses propres mots. On lit dans 1 Pierre 2 au verset 12, « Ayez au milieu des païens, c'est-à-dire des non-chrétiens, une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » C'est pratiquement une citation mot à mot, là. Et Pierre est en train de nous dire qu'on a un rôle à jouer, on doit briller, on ne veut pas cacher nos œuvres, et ce n'est pas une question de chercher la gloire, parce qu'on va le faire dans des contextes où ça va être incompris. Il y a des gens qui vont devoir faire des œuvres, et ils vont médire, ils vont parler en mal de toi, ils vont peut-être dire que tu es en train de le faire par orgueil, ils vont peut-être dire que tu es un puritain, ils vont peut-être dire que c'est ça, toi tu penses que c'est juste les chrétiens qui ont la vérité. Il faut que j'assume quelque chose, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, dans un sens, oui, cette vérité-là, je suis la seule à la posséder. La vérité, comment être réconcilié avec Dieu, il y a un seul chemin, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autres qui sont comparables. Donc, dans ce domaine-là, dans le domaine de cette vérité spirituelle, c'est clair, je suis le seul à la posséder et je vais assumer ça. Mais ça se peut que ça amène toutes sortes de médisances, toutes sortes de mépris, toutes sortes de rejets, toutes sortes de moqueries. Puis je vais décider de le faire quand même. Je vais décider de porter ça devant les hommes. Donc, j'ai pensé vous donner toutes sortes d'exemples, juste pour stimuler votre réflexion, stimuler votre méditation, chercher comment est-ce que Dieu vous appelle à porter, à faire de bonnes œuvres pour attirer l'attention sur Dieu. Certainement, s'afficher comme chrétien. Jésus va dire, s'ils disent faussement du mal de vous, à cause de moi. Donc, les gens savent que vous êtes chrétien. Déjà, un chrétien qui dit « Ah, moi, je ne m'affiche jamais comme chrétien. Les gens ne savent pas que je suis chrétien, mais je fais des bonnes œuvres. » Il y a un moment où il faut qu'ils sachent que tu es chrétien. C'est important. Ça ne veut pas dire que c'est la première chose que tu fais en rentrant dans ton nouvel emploi. « Hey, by the way, je suis chrétien. » Moi, quand je viens servir à la banque alimentaire, j'aime énormément ne pas dire que je suis un des pasteurs de l'Église. J'aime connaître les gens pour ce qu'ils sont, puis qu'ils apprennent à me connaître pour ce que je suis. Puis à un moment donné, ça vient dans la conversation. « Qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie? » Des sermons, je prêche, puis je m'occupe d'une église. Des fois, ça ferme la conversation, puis des fois, ça ouvre la conversation. Mais je veux qu'ils le sachent. Donc, certainement, m'afficher comme chrétien, oser dire que je crois en Jésus-Christ, que je crois qu'il est le sauveur des hommes. Oser dire que je vais à l'église, par exemple. Oser offrir à un ami de prier pour lui s'il traverse un moment difficile. Un autre exemple, oser lui offrir de lui partager un verset biblique pour l'encourager. La parole de Dieu a un effet bienfaiteur, même chez celui qui n'est pas chrétien, Dieu peut venir apporter une consolation, un espoir, puis les attirer à lui. Oser lire ma Bible et prier sans me cacher à la maison, sans me cacher au travail. C'est pas que je fais exprès pour montrer que je suis spirituel, mais je n'ai pas à me cacher non plus de ces choses-là, au contraire. Donc ça, c'est des exemples simples, mais ça veut certainement dire aussi « continuer à être aimable et gentil quand on méprise ma foi ». Continuer à être aimable avec les collègues de travail qui sont injustes, durs, méchants parfois, pas parce que tu es chrétien, juste parce que certains collègues de travail sont comme ça, puis je continue à être aimable avec eux. Continuer à travailler avec cœur quand le boss est dur, puis est ingrat, voire abusif, mais moi je suis intègre, je continue à faire mon travail avec cœur, avec dévouement. Continuer à sourire, tiens, il y en a certains qui vivent ça actuellement. Continuer à sourire sincèrement aux clients qui sont impolis parce qu'ils sont tannés d'attendre depuis 45 minutes pour rentrer dans le magasin. Je sais, il y en a qui m'ont partagé qui vivent ça. Relancer une amitié qui a été brisée par l'égoïsme d'un ami. Aimer mon épouse pour moi, aimer mon mari pour mon épouse, avec une grande générosité quand j'ai la conviction qu'il est ou qu'elle est injuste, que je ne me sens pas respecté, mais je continue à aimer sans condition, généreusement. Mieux encore, continuer à aimer mon épouse si mes amis non-chrétiens me disent que je devrais la quitter puis enfin penser à moi. Non, j'ai appris autre chose. J'ai appris que Jésus demeure fidèle envers moi, même quand moi je suis poche, même quand moi je suis infidèle, Jésus demeure fidèle. Alors voyez-vous, il y a d'une part m'afficher comme chrétien, vraiment présenter l'Évangile, parler de Jésus, c'est une des bonnes œuvres parce que les gens vont peut-être dire du mal de moi à cause de Jésus. Mais d'autre part, une bonne partie du témoignage chrétien, c'est d'attirer l'attention sur Dieu en silence, en faisant des bonnes œuvres. Tout simplement, en portant cette saveur, ce parfum. Et c'est une espèce de sagesse, de direction de Dieu qu'on apprend à chercher dans la prière. Seigneur, j'ai parlé de toi à mes enfants, à mes proches, à mes parents, à mon mari, à mon épouse, à mes voisins, à mes collègues de travail. Je leur ai parlé de toi. Maintenant, c'est temps de me taire. Maintenant, c'est temps de rester en silence, de continuer à garder le témoignage, de porter la saveur à travers ces œuvres-là qui vont être paradoxales, qui goûte peut-être très étrange, mais avec le temps, quelqu'un d'agréable qui, sérieusement, va persévérer avec un grand zèle à détester toute sa vie quelqu'un qui est aimable, quelqu'un qui est doux, quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui est honnête. Quel employeur va continuer à détester avec un feu, là, un employé qui est honnête, qui est zélé, qui est dévoué, qui travaille fort? Ça se peut que sur le coup, il soit frustré parce que tu dis, ben, écoute, boss, moi, ça, je ne peux pas faire ça, je suis désolé, c'est pas honnête, puis je ne peux pas faire ça. Et ça se peut que tu payes pour pendant un bout de temps, je te garantis, c'est possible que tu payes pour. Mais continue quelques années et tu vas te démarquer. Tu vas te démarquer parce que lorsqu'ils vont avoir besoin de quelqu'un d'honnête, qui tu penses qu'ils vont aller voir? C'est toi qui vont aller voir, c'est à toi qu'ils vont confier ça. Ils connaissent ton intégrité. Tu es assez intègre pour les écœurer quand ça ne fait pas leur affaire, mais tu vas continuer à être intègre. Et donc, il y a une place pour porter le témoignage de l'Évangile par des bonnes œuvres en silence. C'est vrai à la maison, c'est vrai dans mes amitiés, c'est vrai à l'école, c'est vrai au travail, c'est vrai dans toutes les circonstances. Il y a un temps pour parler et m'afficher dans ma foi, parler de Christ, annoncer l'Évangile, et il y a un temps pour me taire. Et je vous dirais qu'il y a pas mal plus de temps pour se taire que de temps pour parler. Parce que peut-être que la personne, elle a entendu, mais elle ne veut pas que tu la tannes avec ça. Puis tu comptes tes moments où tu ouvres la bouche pour parler de l'Évangile. Mais tu ne comptes pas les moments où tu as un témoignage intègre, où tu portes la saveur par tes bonnes œuvres. Et c'est là le défi, c'est qu'on a tendance à compter ça. On a tendance à se dire, oui, mais j'ai donné pas mal. Continue à porter la saveur de l'Évangile à travers tes bonnes œuvres. Et parfois ça demande du courage. Parfois, il y a des risques qui viennent avec ça. Le risque d'être méprisé, le risque d'être rejeté. Mais l'amour que Dieu dépose en nous est un amour qui prend des risques. Alors, ce que je vous dis ce matin, c'est pas « faites-vous-en pas, ça va bien aller ». Ce que je vous dis ce matin, c'est « faites-vous-en pas, prenez courage, allez faire de bonnes œuvres, continuez à faire des bonnes œuvres, parce que l'amour prend des risques ». Toujours dans Matthieu 5, au verset 11 et 12, on lit ceci. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Le chrétien prend courage pour faire le bien que Jésus lui demande de faire, en sachant que les récompenses seront peut-être juste dans l'éternité. Je ne le fais pas nécessairement pour des récompenses terrestres. Il y en a plein qui viennent avec. Quand tu fais le bien, souvent les gens remarquent, souvent ils vont te dire merci. Mais comme chrétien, je fais le bien en gardant les yeux fixés sur le ciel. Et c'est une des choses qu'on a essayé de mettre de l'avant à travers cette série-là. Je sais que je ne suis pas réservé pour la colère divine. Quand je vais me présenter devant Dieu, Dieu ne va pas se présenter premièrement comme mon juge, il va se présenter comme mon sauveur. Parce que j'ai placé ma foi en Jésus-Christ qui a pris mes péchés, qui a pris mes péchés à ma place. Et donc, je sais que je suis réservé pour le salut. Ce qui se passe de ma vie ici sur la terre, est-ce que je vais avoir des récompenses ici? Est-ce que les gens vont reconnaître mon service? Est-ce que ma vie va être confortable? Est-ce que ma vie va être longue? Est-ce que ma vie va être courte? Est-ce que je vais être appelé dans la gloire rapidement ou dans 30 ans? C'est pas que c'est des choses qu'on ne considère pas. C'est pas que c'est des choses sans importance pour nous. C'est pas vrai, on est humain. Mais j'apprends à marcher par la foi. J'apprends à regarder ailleurs. J'apprends à regarder à Christ qui est assis à la droite de Dieu. J'apprends à regarder à l'éternité. Et quand je fixe les regards sur Christ et sur l'éternité, je reprends courage pour oser faire de bonnes œuvres dans des moments où ça prend du courage. Et ça va nous prendre du courage, les amis, pour avancer dans ce contexte-là. On vit dans un contexte de peur actuellement. Et dans un sens, c'est très légitime. Il y a plein de gens qui se disent, est-ce que je vais mourir cette année? Est-ce que je vais être emporté? Quand je l'attrape, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais mourir? Donc, on vit dans un contexte de peur. Puis bien honnêtement, les médias nous s'assurent qu'on ne quitte pas trop vite cette peur-là. Hein? Ça en renchérit. On fonctionne à ça. Je vous ai dit il y a quelques semaines, fermez ça à un certain moment donné. Dites-vous, OK, j'ai tant de temps pour m'informer, puis après ça, je vais juste obséder. Donc, on ferme tout ça, on s'en va se connecter sur le Seigneur, puis on cherche les bonnes œuvres qu'on a à faire. Mais ça va prendre du courage. Ça va prendre du courage dans ce contexte-ci, et les chrétiens peuvent être un témoignage puissant. Voici comment John Piper le dit dans le chapitre 10. C'est pourquoi l'un des objectifs que vise Dieu par le coronavirus est que son peuple, parlant des chrétiens, mette à mort l'apitoiement sur soi et la peur pour se consacrer à de bonnes actions en présence du danger. Les chrétiens privilégient le besoin et non le confort, l'amour plutôt que la sécurité. C'est à cela que ressemble notre Sauveur, c'est pour cela qu'il est mort. Voyez-vous, Christ a quitté le confort pour venir donner sa vie pour nous. Et c'est un geste extraordinairement courageux. Et c'est à ça qu'on est appelé. C'est le modèle qu'on cherche à imiter ensemble. Et donc, on est appelé à briller, même s'il y a des outrages, même s'il y a de la peur, nous sommes appelés à briller. Et avant de vous donner d'autres idées, comment Dieu t'appelle peut-être à briller avec courage, je veux rappeler quelque chose qu'il souligne bien dans son chapitre, puis je vous invite à aller le relire. À travers l'histoire de l'humanité, l'Église de Christ s'est souvent démarquée dans des moments de catastrophe nationale. Les histoires de pandémie, de peste noire dans des villes ont souvent été, je ne suis pas en train de dire que l'Église a toujours été sans reproche, je n'irai pas jusque-là parce qu'on a des moments où l'Église n'a pas fait mieux que les autres. Mais on a souvent des histoires où l'Église a été courageuse. Les chrétiens sont restés... Les pandémies sont souvent dans les grandes villes. Hein. À travers l'histoire, ça a été ça, parce qu'on est en proximité, et puis il y a une contamination très, très rapide. Et donc, dans l'Empire romain, dans deux contextes de pandémie, dans l'Empire romain, les chrétiens sont restés en ville. Alors que les gens riches, plus en moyens, quittaient les villes pour aller en campagne, s'éloigner des autres êtres humains, les chrétiens restaient là non seulement pour prendre soin des leurs, mais pour prendre soin aussi des autres qui étaient abandonnés. À Londres, C'est mon prof d'histoire de l'Église, Michael Aiken, qui soulignait ça cette semaine. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. À Londres, au 17e siècle, nos ancêtres à nous, les évangéliques baptistes, puis une bonne partie des évangéliques, on peut remonter nos racines jusqu'aux puritains. Et c'était une époque où les puritains n'étaient pas tolérés en Angleterre. C'était l'Église illégale, parce que la seule Église légale, c'était l'Église anglicane, qui était beaucoup plus religieuse, beaucoup plus formelle. Et donc, les pasteurs puritains n'avaient pas le droit de prêcher l'Évangile. Ils n'avaient pas le droit de tenir des églises. Ils le faisaient quand même, parce que c'était un endroit où ils disaient, là, c'est de la désobéissance civile, il faut quand même qu'on vive notre foi. Mais ils le faisaient en étant persécutés. Une grande pandémie, la peste noire est venue frapper Londres en 1600 quelques. Et presque tous les pasteurs anglicans, qui étaient beaucoup plus riches que, par exemple, bien des chrétiens dans leurs églises, ont quitté Londres, puis sont allés se réfugier en campagne. Et les pasteurs puritains sont restés, un grand nombre d'entre eux, à Londres, puis ils se sont dit, bien, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prêche dans cette église-là dimanche. Et donc, ils sont allés prendre les chaires dans les églises anglicanes, parce que les gens des églises étaient là, ils étaient pauvres, puis ils restaient là le dimanche matin, les églises étaient pleines, et ils prêchaient l'Évangile, et ils annonçaient l'Évangile. Et ça a été un moment tournant dans l'histoire de l'Évangile à Londres, après la pandémie. Et donc, je veux juste souligner que les chrétiens, à travers l'histoire, ont su souvent saisir ces moments de catastrophe pour garder les yeux fixés sur Christ et faire preuve de courage, faire preuve de charité. Cette charité chrétienne, qui est vraiment une marque du christianisme, n'est pas seulement envers les chrétiens, mais elle est aussi envers ceux de l'extérieur. Et dans les moments de catastrophe nationale, voire mondiale, c'est particulièrement vrai. Et on a des opportunités pour le faire. Alors, laissez-moi vous donner quelques exemples. Certaines d'entre elles sont pour vous, d'autres ne sont pas pour vous. C'est à vous de chercher la face de Dieu. Par exemple, une bonne œuvre avec courage. Choisir d'aller travailler dans un CHSLD parce qu'il manque de personnel dans le contexte de la COVID-19. Peut-être que Dieu t'appelle à faire ça. Aller faire du bénévolat pour aider des organismes alors que tu n'es pas une personne à risque. Tu n'es pas une personne qui risque facilement d'être emportée par ça selon ce qu'on connaît de la maladie. Mais tu pourrais rester caché chez vous à jouer à des jeux vidéo peut-être, mais tu prends le courage de foncer. Ah, celui-là est très, très, très dangereux. Ça prend énormément de courage. Je suis sarcastique. Oser allumer la télé le dimanche matin pour suivre la célébration alors que personne d'autre dans la maison s'y intéresse. Pourquoi pas? Ça se peut que ce soit ça. Tiens, très intense, mais très vrai. Vraiment intense, celui-là. Rien à voir avec le COVID-19. Oser garder le bébé que tu portes dans ton ventre, même si les gens te disent que tu devrais te faire avorter parce que ce n'est pas le bon moment dans ta vie, parce que tu ne pourrais pas donner un bon contexte économique à cet enfant-là, mais tu dis non, c'est une vie. Et moi, je décide de le garder avec toutes les conséquences que ça va avoir. C'est du courage aussi. Écoutez, pour certains, avoir du courage, c'est simplement choisir d'avoir des enfants. Dans un contexte où tu dis, oui, mais je ne sais pas c'est quoi leur avenir. Et moi, je choisis d'avoir des enfants, puis plein d'enfants. Puis c'est peut-être ça, c'est peut-être à cette bonne œuvre-là que Dieu t'appelle. Choisir de te marier et de jurer fidélité pour la vie. Il semble que ça prend du courage. Et pourtant, c'est tellement, tellement béni. Dire à ton boss que tu ne travailles pas en dessous de la table parce que ça va contre tes principes. Là, je vais être vraiment extrême. Dire à quelqu'un qui n'a pas la même foi que toi, que tu crois qu'il est dans l'erreur et que son Dieu est un faux Dieu. Ça doit se faire avec amour, avec douceur. Mais aujourd'hui, ça prend du courage de dire ça parce que les gens disent « Ah, t'es qui pour dire que ton Jésus est mieux que les autres? » Oui, mais comment ils vont savoir l'Évangile si tu n'as pas le courage de le faire? Et peut-être que c'est ça, cette œuvre courageuse-là, d'engager respectueusement, doucement, gentiment, une conversation ouverte. Ouverte où tu vas décider de faire ça. J'étais tellement encouragé cette semaine d'apprendre qu'il y a des groupes découvertes, que l'Église de Sorel est en train de partir. Il y a des hommes là-bas qui sont en train de partir, 3 groupes découvertes sur le web, avec des outils sur le web où ils vont avoir des conversations entre chrétiens, mais avec des amis non-chrétiens qui veulent découvrir le christianisme. C'est extraordinaire. J'étais tellement, tellement encouragé. Ou encore, travailler cet été pour les producteurs maraîchers alors que tes amis te disent de profiter de l'allocation pour les étudiants. Peut-être que tu as la santé, peut-être que tu peux aller travailler, puis tu peux oser foncer. Écoutez, oser dire que pour les chrétiens, rester chez nous à être payé à rien faire, lorsque le gouvernement va nous dire « Allez-y, il faut relancer l'économie. » Peut-être que c'est ça, avoir du courage. Ça va peut-être prendre du courage de faire ça. Mais il va falloir le faire à un certain moment donné. Puis quand le gouvernement va nous dire « Regardez, on a besoin de bénévoles là, on a besoin d'aller travailler là. » Il va falloir rassembler ce courage-là. Nos gouvernements, actuellement, cherchent à prendre les meilleures décisions. Je suis convaincu de ça. Maintenant, ça a un impact, écoutez, énorme, du jamais vu dans l'histoire du Canada sur l'économie au niveau de l'endettement. Et ça va nous prendre énormément de courage pour dire « Oui, mais on ne veut pas laisser tout ça à nos enfants. » Il va falloir relancer cette économie-là. Certains d'entre vous, Dieu vous a donné des talents d'entrepreneur. Puis là, vous dites « Oui, mais tout est brisé. » Mais on va avoir besoin de gens qui ont ces talents-là, puis des chrétiens qui vont avoir le courage de se lancer, puis de dire « on va repartir ça ». Certains, ça va être d'aller travailler pour des entrepreneurs qui repartent des entreprises, puis de dire « mais là, j'aurai une situation super inconfortable, sécuritaire où je pourrais aller travailler, mais je sais qu'il va falloir vraiment prendre notre courage à deux mains, parce que les chrétiens ont cette valeur-là qui dit « si tu as la santé pour travailler, tu vas travailler. Si tu n'as pas la santé pour travailler, il faut qu'on se rassemble ensemble pour t'aider, pour prendre soin de toi. » Ça, c'est une valeur chrétienne. Mais il semble que ça va prendre du courage. Je pense que dans les semaines, les mois à venir, nos gouvernements vont nous dire « courage ». Il faut qu'on apprenne à vivre dans un contexte qui est difficile, un contexte qui est différent. Il faut reprendre courage maintenant parce qu'on va devoir apprendre à vivre avec une nouvelle réalité. Dieu nous a donné à nous, hey les chrétiens, Dieu nous a donné à nous dans l'Évangile de Jésus-Christ, tout ce qu'il faut pour trouver ce courage-là. Et donc, ce que je suis en train de vous dire ce matin, c'est que comme chrétiens, on a une saveur à apporter. On a une saveur exotique, peut-être difficile à apprécier au départ. Peut-être que les gens vont réagir, vont dire « Bah, ça goûte bien mauvais cette affaire-là. Ça goûte fort. » On est persévéré. Continuez. Peut-être que les gens vont dire « Ah non, moi je ne goûterai plus jamais à cette affaire-là. » Continuez. Continuez. Ça prend du courage. Il faut accepter qu'on est incompris. Il y a une joie spéciale qui est là à imiter notre Seigneur Jésus qui a fait le bien alors qu'il était incompris. Il s'est rendu à la croix. C'est le summum de l'incompréhension, alors qu'il est en train de faire la plus belle œuvre qu'un être humain a jamais faite à travers toute l'histoire de l'humanité. Dieu le Fils s'est fait homme et est venu mourir sur la croix pour nos péchés, totalement incompris, mais il faisait la volonté de son Père, il faisait le bien. Et ce que je te dis ce matin, c'est qu'on est appelé à ça. On est appelé, nous, à chercher à s'afficher comme chrétiens, même si ça veut dire qu'on est incompris. On est appelé, nous, comme chrétiens, à dire « Seigneur, montre-moi les bonnes œuvres que j'ai à faire. » Des fois, je vais parler, des fois, je vais annoncer l'Évangile, souvent, je vais me taire, mais je vais continuer à le faire. Des fois, ça va demander du courage, je vais trouver mon courage dans l'Évangile, puis je vais foncer. Dieu nous appelle à apporter cette saveur-là. Et on a une opportunité absolument extraordinaire de le faire. Une opportunité jamais vue dans l'histoire de l'humanité. Alors, brillez que ta lumière... Toi qui es la lumière du monde, toi qui es le sel de la terre, parce que tu as reçu l'Évangile, déploie cette lumière-là. Puis demande à Dieu comment le faire dans les prochaines semaines, les prochains mois. On va avoir des opportunités extraordinaires. On va aller en prière ensemble, puis on va louer ce Dieu-là merveilleux. Seigneur Jésus, on est au bon endroit ce matin. En allumant notre télévision, notre écran d'ordi, en se branchant ensemble, on est au bon endroit parce que toi, tu es ici avec nous. Toi, tu es avec nous en ce moment. Ton esprit fait une œuvre en nous pour redonner de la saveur à nos vies. Réaligner nos cœurs, nos vies sur Jésus-Christ. Et Seigneur, c'est notre prière que les églises qui ont perdu leur premier amour retrouvent leur premier amour, que les chrétiens qui ont perdu leur premier amour retrouvent leur premier amour, que nous puissions reprendre courage dans ce que toi tu as fait pour nous et que nous soyons fiers de porter ton nom, de faire des bonnes œuvres, même lorsque c'est incompris. Et le courage de persévérer, de persister, afin qu'au jour où tu visiteras nos proches, les gens qui nous entourent, les gens qui nous regardent aller comme chrétiens, qu'ils puissent te connaître, qu'ils puissent rendre gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Seigneur, je te prie de nous instruire. Viens nous parler dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Viens nous montrer à chacun d'entre nous, avec nos capacités, avec nos ressources, avec nos moyens, viens produire une créativité en nous par ton Esprit Saint pour que nous voyons quelles sont ces bonnes œuvres que tu nous appelles à faire, Seigneur. afin de porter cette saveur dans un monde qui a besoin de découvrir une saveur exotique, qui est celui de l'Évangile de Jésus-Christ, sans lequel aucun homme ne sera sauvé, Seigneur. Viens nous conduire, viens conduire ton Église. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.